On va faire réagir nos invités, on va poursuivre ce débat sémantique à 8h20 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et pour évoquer non seulement ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, mais aussi ce qui se passe un peu partout, en banlieue ou dans les zones dites sensibles. Vous avez dit les 10 jeunes des zones dites sensibles, hein, Frédéric Seyss. Donc je vais vous présenter mes invités qui sont là. Tout d'abord Didier Lesky, ancien préfet délégué pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, auteur de l'article « Chose vue en Seine-Saint-Denis » dans le numéro de décembre de la revue Le Débat. Et à côté de vous, Manon Haute, vous êtes chercheuse en sciences sociales et en cinéma et auteur du film et du livre De Cendres et de Braises, issu d'un travail d'enquête de plusieurs années dans les quartiers populaires des Mureaux. Bonjour à tous les deux. Manon Haute, peut-être une réaction à ce qu'a dit Frédéric Seyss autour de ce débat sémantique.
Oui, on voit dans l'emploi des mots qu'il y a beaucoup de confusion. Et vous parliez de la catégorie, en effet, des jeunes de cité qui veut à la fois tout et rien dire. Et c'est vrai que les représentations dominantes des banlieues et de leurs habitants se focalisent la plupart du temps sur une minorité de jeunes, parce que c'est aussi ce qu'on entend dans les propos d'Edouard Philippe. Il s'agit d'une petite bande. Donc sur une minorité de jeunes qui occupent à la fois les espaces extérieurs du quartier, parfois sont en échec scolaire, au chômage, connaissent parfois la délinquance. Et c'est ces jeunes, cette minorité de jeunes, qu'on appelle aussi parfois très rapidement les jeunes à capuche, qui occupent à la fois l'espace extérieur mais aussi l'espace médiatique. Et ils habitent l'imaginaire collectif sur les banlieues, à tel point qu'on pourrait parfois croire qu'ils sont les seuls habitants de ces quartiers. Et donc c'est une expression « jeune de cité » qui crée elle-même beaucoup de confusion, car elle semble englober l'ensemble des jeunes qui habitent les cités, alors qu'en réalité, elle renvoie le plus souvent à une minorité, et elle tend à invisibiliser toute une autre partie et une majorité de la population et des habitants de ces quartiers. Elle contribue aussi à la mauvaise réputation de ces quartiers qui pèse aussi sur l'ensemble des habitants. Et c'est vrai que moi, tout mon travail de recherche, mais aussi de film, ça a été d'essayer de parler plutôt de ces invisibles. Du coup, je trouve ça très intéressant que vous m'invitiez pour m'exprimer sur ces actualités, sur cet incendie, parce que je dis souvent que ce qui préoccupe mon travail se situe ailleurs, c'est-à-dire que loin des grands feux de l'actualité, ces grands feux qui retiennent l'attention médiatique, les voitures qui brûlent, les émeutes. C'est vrai que mon travail, en particulier le film et le livre de Cendres et de Braises, se sont plutôt intéressés aux petits feux. Et ce que j'appelle les petits feux, c'est plus l'ordinaire du quotidien. Ce sont des histoires de vie, des trajectoires, des paroles qu'on entend peu et qui pourtant nous racontent une autre banlieue. Des histoires d'engagement, des histoires de résilience, des histoires de résistance. Et pour moi, ces petits feux sont aussi des paroles qui expriment parfois un rêve, parfois une colère, parfois une révolte, et qui ont quelque chose d'important, de politique. Et il y a un danger avec cette logique de l'actualité, ces grands feux qui tendent à éclipser tout le reste.
Mais dans une matinale d'actualité, on est là à la fois pour éclairer le quotidien des gens et aussi les grands feux de l'actualité. Didier Lesquivou, qui avait été préfet en Seine-Saint-Denis.
Donc, écoutez, c'est toujours très difficile de choisir des mots pour décrire une réalité qui est complexe. Et c'est vrai en particulier dans ce type de lieu, de banlieue, comme on dit. Chanteloup-les-Vignes, c'est une petite ville, hein, c'est 10 000 habitants, c'est pas très grand. Et en même temps, ça fait depuis des années l'actualité. On parle de film, donc La Haine, hein, qui a été un film qui a un peu lancé, malgré elle, cette ville dans le débat public. Et puis là, on a affaire sans doute à quelque chose qui est assez classique, malheureusement, dans beaucoup de zones. C'est le fait que quand on fait de la rénovation urbaine, c'est-à-dire en réalité la destruction, la reconstruction de bâtiments qui sont insalubres, on peut gêner des trafics et du trafic de drogue. Et je rappelle que un des malheurs de ces zones, c'est que le trafic de drogue, c'est un transfert de richesses des enfants, de classe moyenne ou de riche vers les pauvres. Hein. C'est ça, et les Yvelines, c'est un peu ça, et Paris, c'est un peu ça. Et donc, on perturbe ce trafic, et il peut y avoir un phénomène de vengeance. J'ai connu ça, par exemple, à Stein, où tout de suite après l'arrestation d'une bande qui trafiquait, il y a eu une médiathèque qui venait juste d'être inaugurée, qui a été intégralement brûlée. Et donc, il y a une forme d'appropriation territoriale par des petits groupes, hein, mais qui impacte l'ensemble de la population.
Édouard Philippe a dit, donc, lorsqu'il s'est exprimé, lorsqu'il a parlé de cette bande d'imbéciles qu'évoquait Frédéric Saïs dans son billet politique il y a quelques instants, il a expliqué qu'en fait, la réaction était particulièrement forte parce que la volonté du gouvernement de faire en sorte que ces trafics s'achèvent était particulièrement tenu et aujourd'hui exécuté un peu partout sur le territoire. C'est ce que vous pensez, Didier Lesky ?
Non, mais ce que je pense, c'est que bien évidemment, il y a des tas d'endroits, des tas de villes, en particulier en périphérie de Paris, où il y a une tentative de reconquête, comme on dit très souvent. Mais cette reconquête par la police ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a une partie des jeunes qui trouvent dans le trafic, je dirais, leur seule espérance. Hein, et c'est ça qui fait le drame. Et donc, du coup, et du reste, dans le film de Manon Honte, on le voit bien. C'est-à-dire, ce sont des petits entrepreneurs qui n'ont plus de perspective collective et qui, du coup, essayent de faire en sorte que leur lieu, qui est le lieu de leur vie et qui rapporte, ne soit pas repris par l'ensemble de la population. Et on a vu par exemple des maires qui essayent de se réapproprier l'espace public pour pas le laisser justement à ces bandes d'imbéciles ou de sauvageons.
Des maires M-E-R-E-S.
Oui, des maires M-E-R-E-S, bien sûr. Et la difficulté en plus dans ce type de situation, je le dis, Chanteloup-les-Vignes, c'est 10 000 habitants, les gens se connaissent. On peut peut-être savoir, et l'enquête le dira, s'il y a des jeunes du lieu, mais un des aspects du trafic ces dernières années, c'est que les personnes peuvent venir d'autres villes pour investir un lieu, parce que comme ça, elles savent qu'elles ne seront pas reconnues. Hein, c'est ce qu'on voit par exemple à Saint-Ouen, à Stein, à d'autres. Et donc, du coup, ça rend les enquêtes beaucoup plus difficiles et ça rend même le rapport au quartier très détaché, c'est-à-dire que si on brûle quelque chose là où on ne vit pas, mais on est simplement le trafiquant du lieu, ça n'a pas la même conséquence pour soi.
Sur le rapport au travail, justement, je vais vous faire entendre un extrait de votre documentaire Manon Hotte de Cendres et de Braise. Les jeunes des Mureaux parlent de leur rapport au travail.
En fait, c'est quand tu commences à rêver du travail, tu dis non, là, il y a un problème. Là.
Et là, tu te révoltes pas.
Tu commences à râler. En même temps, tu vois le courage de nos parents, tu vois.
Ouais, exact.
Tu dis, ah, regarde, nos parents, ils ont traîné ici pendant je sais pas combien de piges, et voilà, tout ça pour nous mettre loin, tu vois.
Ouais, mon vieux m'a dit une phrase. Il m'a dit, regarde, t'es en Renault, t'es avec moi. Toi, t'es né ici, t'es à l'école et tout. Moi, je suis là, j'ai pas été à l'école, je parle même pas un mot français, on travaille dans le même endroit. Est-ce que tu trouves ça normal? Ça, cette phrase-là. On m'a fait réfléchir. Hein.
Ouais. En plus, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je dis ouais, je vais faire comme mon père, je vais travailler à Renault. Il m'a dit, mais t'es fou, toi. Non, mais papa, comme toi, tu vois, quand t'es petit, je vais faire comme ton père, je vais travailler à Renault. Il m'a dit, hey. Et moi, vas-y, j'ai pas compris. Mais là, j'ai compris pourquoi il me disait ça. Oh, Renault, c'est pas le temps, tu le fais parce que t'as pas le choix.
8h29 sur France Culture, un extrait de votre documentaire de Cendres et de Braise, Manon Hotte. Ce documentaire, il a été tourné aux Mureaux. Les Mureaux, par rapport à Chanteloup-les-Vignes, si l'on devait comparer ces deux lieux, parce que, bien évidemment, il y a un problème sémantique. On dit, voilà, ce sont des zones dites sensibles, les banlieues, bref. Quel terme employer? Est-ce que c'est homogène? Est-ce qu'au contraire, vous considérez, pour avoir étudié cela, Manon Hotte, qu'il y a des distinctions à faire entre ces lieux?
Oui, mais chaque ville, chaque commune, chaque quartier a son histoire. C'est bien sûr à chaque fois une histoire singulière, mais il y a aussi des processus historiques qu'on retrouve. Et l'histoire, moi, des quartiers des Mureaux m'a beaucoup intéressée parce qu'elle était singulière, mais emblématique à la fois. Et c'est l'histoire aussi de la vallée de la Seine. Chanteloup-les-Vignes se retrouve aussi dans cette vallée de la Seine qui a une histoire industrielle très forte, une histoire ouvrière donc très forte, puisque c'est une vallée qui s'est développée avec l'industrie automobile. Donc on avait Talbot à Poissy, Peugeot Citroën aujourd'hui, et Flins, Renault Flin, juste à côté des Mureaux. Donc les quartiers des Mureaux, une grande partie de ces quartiers, puisque le premier quartier construit s'appelait la Cité Renault, ont été construits donc dans les années 60 pour loger les ouvriers de Flin. À Poissy, on a construit des grands ensembles pour loger les ouvriers de Talbot. Et à Chanteloup, certains des habitants étaient aussi des ouvriers de l'industrie automobile. Donc c'est des quartiers qui sont marqués par cette histoire industrielle. C'est des usines Talbot et Flin qui ont, enfin Renault, qui ont compté dans les années 70 plus de 20 000 ouvriers, qui aujourd'hui n'en comptent souvent pas plus de 5 000. Enfin, entre 4 et 5 000 à Flin, je crois qu'on n'est pas loin du côté de PSA. Donc c'est aussi un territoire qui est marqué par cette désindustrialisation. Les conflits d'ailleurs de Talbot et les licenciements du début des années 80 ont été extrêmement violents. Je sais qu'un certain nombre de pères de famille, je crois plus de 80, qui habitaient à Chanteloup, qui étaient ouvriers à Talbot, ont fait partie des licenciés de cette vague de licenciements du début des années 80. Donc voilà, il y a une histoire effectivement qu'il faut comprendre et revisiter pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais aussi préciser que voilà, dans les paroles qu'on a entendues là dans le film de Sandré Debresse, c'est pour moi des paroles de jeunes qui sont aussi très conscients, très intéressés, qui portent un regard sur la société, le monde dans lequel ils vivent, sur ces questions du travail, des mutations du travail. Et c'est pas le film de Sandré Debresse ne montre pas des trafics, ou ils s'intéressent pas. C'est un film qui va plutôt à la rencontre de personnes qui s'engagent, qui réfléchissent sur la société dans laquelle ils vivent.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez décidé de vous occuper de la part invisibilisée, oui, de ces quartiers Manon Haute, qui est celle qui n'a rien de spectaculaire et qui n'intéresse généralement pas les médias, puisque on est là dans les tranches d'actualité pour s'occuper des trains effectivement qui n'arrivent pas à l'heure.
Oui, voilà. Non, disons que j'ai essayé de faire un travail à la fois de recherche et de le film, c'est aussi un travail de création qui essaie effectivement de porter un autre regard, de se déplacer, d'aller à la rencontre d'histoires de vie qu'on entend peu, de paroles qu'on entend peu, et puis aussi d'historiciser le regard, de retisser ces liens, parce que de retisser ces liens entre le monde de l'usine et celui de ces quartiers, entre différentes générations, et de repenser la question sociale, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est vrai que dans les représentations dominantes comme ça de ces quartiers, il y a eu une sorte de dépolitisation du regard, c'est-à-dire de plus en plus, on a regardé ces quartiers comme des quartiers sans histoire, déconnectés donc l'histoire sociale. Il y a eu une territorialisation des problèmes, aussi une ethnicisation des problèmes. Moi, tout mon travail, ça a été d'essayer de repenser la question sociale, la question du travail, des mutations du travail.
Didier Lesquive, votre réaction par rapport à cela, y a-t-il donc une évolution de ces quartiers? Alors, les deux discours ne sont pas d'ailleurs inconciliables, parce que quand vous dites, Manon Haute, qu'il y a eu dans ces lieux une histoire sociale, que cette histoire sociale, elle s'est en quelque sorte achevée avec la fermeture de ces usines, Didier Lesquive, lorsqu'on songe à ces jeunes et à la manière dont ils vivent, est-ce qu'il y a véritablement un facteur explicatif dans le trafic de drogue? Est-ce que c'est cela?
Non, mais il y a un facteur explicatif dans la décomposition, d'une certaine manière, du tissu social, parce que les lieux, ça porte aussi la mémoire des luttes. Et Renault Flin, c'est par exemple le lieu d'un des morts de mai 68, qui s'appelait Gilles Totin, qui était un lycéen, et que c'est un des moments où on a essayé de penser la jonction entre les mouvements étudiants et le mouvement ouvrier. Et on voit bien à quel point ce que vous appelez la dépolitisation, c'est l'effondrement du mouvement ouvrier, c'est-à-dire cette capacité à englober les personnes qui arrivent là dans une espérance collective qui les amenait à essayer de, pas simplement de lutter, mais d'essayer de vaincre, hein, puisque le début du film de Manon Haute commence par des extraits d'un film qui s'appelait « Oser lutter, oser vaincre », justement, et qui essayait de porter cette espérance de lutte et de transformation de la société. Et on voit que cette dépolitisation, elle amène en gros à un rêve individuel éclaté dans une situation, je dirais, où on n'a plus de travail, où on dévalorise l'idée même du collectif. Et c'est ça qui pèse bien souvent sur ces quartiers. C'est la fin, d'une certaine manière, l'effacement des militants au profit d'autre chose, parfois des prédicateurs, puisque Chanteloup, c'est aussi le lieu de Babylou.
Babylou, il faut rappeler cette crèche.
Voilà, cette crèche qui a été un des moments du débat sur le rapport à la religiosité dans l'espace public ou dans l'espace de travail, avec cette personne qui arrive du jour au lendemain voilée et qui se heurte justement à une ancienne militante qui venait d'Amérique latine et qui avait ouvert ce service pour ceux qui travaillaient comme crèche un peu ouverte à tout le monde.
Didier Lesky, vous qui avez été préfet en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi on a assisté à Chanteloup-les-Vignes, mais qui a également été observé ailleurs, il y a eu des violences à Béziers, est-ce que c'est le signe d'une anomie, c'est-à-dire d'une société complètement désagrégée? Est-ce qu'au contraire, ça a un sens? Même les actions criminelles peuvent avoir des sens. Est-ce que là, il s'agit de montrer qu'il y a des territoires qui doivent être sanctuarisés au profit des délinquants, au profit du trafic de drogue? Bref, comment peut-on l'interpréter?
Non mais il y a le sens, c'est que malheureusement les dynamiques d'organisation de ces quartiers peuvent être à un moment donné dominées par le trafic qui en même temps, et je le redis, qui peut être la seule ressource pour une partie de ces jeunes ou de ces populations, enfin je veux dire une partie minoritaire, mais ça pèse dans l'économie globale.
Mais alors pourquoi est-il aujourd'hui aussi évident d'en parler? Est-ce qu'il est par exemple impossible d'aller à l'encontre de ces trafics? Est-ce que finalement en laissant faire ces trafics on achète la paix sociale? Vous avez été préfet et on est un peu sur...
Je ne peux pas dire qu'on laisse faire les trafics, c'est une situation compliquée. Ce trafic n'existe que parce que les perspectives autres sont devenues très faibles, ou même n'apparaissent plus crédibles. On a par exemple ce phénomène de jeunes qui peuvent être encore au collège, qui vont servir de guetteurs à des trafiquants, moyennant des sommes qui sont pour nous peut-être dérisoires, mais pour eux importantes. Et du coup, on a sur le vide... Je dirais du travail et de la dignité qu'il peut procurer, on a cette émergence du trafic qui prend en otage, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que il faut pas dire la banlieue c'est que des trafics, mais ça prend en otage l'ensemble de la représentation, mais aussi l'ensemble de la vie d'une partie de la population.
Et alors par rapport à ça, est-ce que la politique, j'ai fait un lapsus, mais d'un autre côté, oui. Ce n'est pas un mauvais lapsus. Est-ce que la politique est impuissante? Est-ce que la police est impuissante? Est-ce qu'au contraire, il y a...
Non, mais la politique est impuissante. Par exemple, vous prenez la Seine-Saint-Denis, où j'ai été effectivement en poste pendant 3 ans. La Seine-Saint-Denis, c'est le département de l'Île-de-France où on crée le plus d'emplois. En Île-de-France, le plus d'emplois. Hein. Et c'est en même temps le département d'Île-de-France où le taux de chômage est le plus haut. Ça veut dire que les emplois qui sont créés ne correspondent pas à une partie de la population qui n'a pas la formation nécessaire. Et on entend des jeunes qui peuvent dire, ben voilà, je suis pas allé à l'école ou ça ne m'a pas suffisamment formé. Et donc, ne peuvent pas avoir de perspective. Et on a une confrontation sociale très forte entre des zones où les gens viennent et ont des emplois et des zones où les jeunes comprennent que les emplois qui sont là sont pas pour eux. Et quand ils prennent le métro, Aubervilliers, par exemple, une des villes les plus pauvres de France, eh bien, à 4 stations de métro, on va avoir de la richesse. Et donc, il y a une sorte de ressentiment social qui peut s'exercer.
Manon Hotte, votre point de vue.
Oui, j'aimerais réagir oui, sur 2 points. Revenir un tout petit peu en arrière sur la question effectivement aussi des luttes sociales qui ont traversé ces territoires. Parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup intéressée, cette histoire ouvrière qui est effectivement traversée par des luttes. Flins en 68, vous l'avez rappelé. Et je pense que... Donc il y a eu ce mouvement ouvrier effectivement très fort. Et aujourd'hui, quand on parle des quartiers populaires, on les dépeint souvent comme des déserts politiques, comme si effectivement il n'y avait plus de lutte, plus de collectif, plus de mobilisation. Or, ce sont des quartiers qui ont aussi une histoire de mobilisation. Pour donner comme ça quelques exemples, on peut penser à tous ces mouvements qui, dans les années 80, sont nés dans le sillage de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et notamment dans les Yvelines, à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu des mouvements comme Résistance des banlieues. Un petit peu plus tôt, il y avait eu d'ailleurs Rock Against Police. Il y a eu Résistance de banlieue, il y a eu des mouvements comme le Comité National contre la double peine ou comme le MIB. Il y a eu donc vraiment des mobilisations. Il faut pas oublier tous ces mouvements qui nous disent que non, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques.
Mais il ne faut pas les oublier, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Manon Hotte. Oui. Il ne faut pas les oublier, mais est-ce que c'est ces jeunes que vous avez rencontrés au Mureau, est-ce qu'ils s'en souviennent? Est-ce que ça fait sens pour eux? Parce que, et par exemple, ce sont des quartiers où on s'abstient beaucoup politiquement, où les associations ont parfois du mal à se faire entendre, si bien d'ailleurs que...
On voit qu'il y a eu un déclin, parce que, bien évidemment, on a eu dans les années 80 encore de belles initiatives. Rock Against Racism, c'était quelque chose qui venait en plus d'Angleterre. On avait des mouvements très importants de lutte contre le racisme. Le mouvement interbanlieue poursuivait des mouvements qui existaient dans les années 70. Mais on sent qu'il y a une pente déclinante et une difficulté à reprendre pied pour réélaborer un projet collectif qui arrive à ce que l'ensemble des personnes qui vivent dans ces lieux se projettent vers un futur positif. Et la difficulté des politiques publiques, c'est peut-être de se limiter parfois à essayer de contenir quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser.
Ça veut dire que finalement, c'est plutôt une solution, le ghetto, Didier Leschi, parce que si l'idée c'est de contenir, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il suffit d'entourer ces lieux et
je
de
dis considérer... pas que c'est une bonne idée.
Non, mais je dis pas que vous dites que c'est une bonne idée, mais d'un autre côté, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont faites et qui n'aboutissent pas. Donc, on se demande si on n'en fait pas assez, si on ne fait pas ce qu'il faut. La deuxième chose que je voulais savoir, Didier Leschi, si on écoute par exemple Catherine Arénoux, qui est la maire de Chanteloup-les-Vignes, eh bien, elle dit qu'il y a des gens qui s'en vont de ces quartiers. Mais bref, on comprend que finalement, être dans ces quartiers, ça n'est jamais un choix et que c'est toujours un choix par défaut.
C'est une des difficultés de ces lieux. D'abord, il y a des gens qui se battent, des élus qui essayent de faire des choses, des associations qui sont là, qui essayent aussi de maintenir du collectif et d'essayer de faire en sorte que la trajectoire ne soit pas négative. Mais c'est très difficile de rester pour une partie de la population. Et la Seine-Saint-Denis, comme d'autres, c'est des lieux de passage. C'est-à-dire, la pauvreté arrive là, et puis ceux qui peuvent s'en sortir, eh bien, en particulier par rapport à leurs enfants, essayent de partir. Parce que une des difficultés de la politique dite de mixité sociale, c'est que les personnes qui sont en ascension sociale ont une défiance très forte vis-à-vis de l'école, et en particulier vis-à-vis du collège.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'ils ne laissent pas leurs enfants dans ces collèges et que les premiers à ne pas les laisser, on le sait, par exemple, ce sont les enseignants. Vous lisez les études de François Dubé, il vous raconte ça de manière très détaillée. Donc, on a l'impossibilité d'une stabilisation d'une classe moyenne, disons, qui était aussi la classe militante de ces quartiers. Je prends par exemple très souvent l'exemple des enseignants. Les enseignants du secondaire en Seine-Saint-Denis, majoritairement, n'habitent pas la Seine-Saint-Denis. Les instituteurs aussi ont eu tendance à partir. Par exemple, quand on a fait cette réforme qui est le découplage, le fait que les communes n'ont plus l'obligation de loger les instituteurs, on a en même temps désagrégé une partie du tissu militant. Et vous prenez des maires, le maire de Saint-Denis était un instituteur, enfin, il participait de la vie sociale. Et donc, on a quelque chose qui s'est désagrégé. Comment on peut transmettre de la mémoire des luttes et comment on peut faire en sorte que, de nouveau, le collectif soit pris par une espérance immédiate et non pas par l'idée du commerce et je vais m'enrichir très vite pour après acheter mon petit pavillon ou faire autre chose ou partir en vacances de l'autre côté de la Méditerranée. C'est tout l'enjeu. Et là, il y a une perte de mémoire que les années 80 n'ont pas réussi à coudre suffisamment.
Manon, il y a beaucoup de plans en banlieue, certains qui ont été exécutés, d'autres qui ont été abandonnés. Est-ce que vous en avez vu les traces, les conséquences positives, négatives au Mureau?
Le contexte dans lequel moi j'ai travaillé pendant plusieurs années au Mureau, c'était effectivement le contexte par exemple de rénovation urbaine. Et c'est d'ailleurs cette rénovation urbaine, cette image des démolitions et des décombres qui m'a aussi donné envie d'aller enquêter sur l'histoire de ce territoire. La rénovation urbaine, c'est sûr que ça améliore le cadre de vie. Après, il y a d'autres questions, des questions d'emploi, des questions de formation qui ne peuvent pas être résolues par des questions d'urbanisme. Après, j'aimerais rebondir encore très rapidement sur cette question, effectivement, la mémoire des luttes. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de transmission de cette mémoire. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'histoire des révoltes qui sont issues des quartiers populaires, elle a montré combien celles-ci étaient très souvent déclenchée par des conflits avec la police aussi. Et je crois que à Chanteloup, mais comme dans d'autres quartiers, il y a un climat aussi qui est très tendu, un rapport quotidien très tendu entre les jeunes, certains jeunes, et la police. Et il faut pas oublier ces conflits qui disent beaucoup de choses et qu'il faut pas non plus oublier les causes de révolte qui sont parfois aussi sociales, politiques.
Didier Lesky, en conclusion, est-ce que ça va déboucher sur un énième plan banlieue? Alors celui que proposait Jean-Louis Borloo a été abandonné.
Les mesures proposées là, certaines me semblent très intéressantes. Par exemple,
lesquelles?
Par exemple, la volonté de stabiliser les fonctionnaires dans les postes, et parce que un des problèmes en particulier dans l'éducation nationale, c'est la rotation très rapide des équipes enseignantes, et essayer de montrer que la pénibilité du travail mérite une prime particulière pour être stabilisée sur ces lieux, je pense que c'est important. Il y a un deuxième problème qui me semble très important, c'est celui de la justice du quotidien. Renforcer la justice civile me semble une priorité. On peut pas avoir des zones où le logement privé est un logement social de fait particulièrement dégradé et avoir une justice civile qui ne puisse pas rapidement résoudre les conflits entre propriétaires et locataires ou laisser continuer se dégrader du logement. Donc il y a des choses intéressantes. Maintenant, ça ne résout pas le problème de fond, qui sont à mon avis deux choses, l'emploi et puis la capacité à renouer avec des espérances laïques, mais c'est pas de l'administration.
Didier Lesky, ancien préfet délégué pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Manon Hoat, votre documentaire De cendres et de braises, avec un travail d'enquête de plusieurs années dans les quartiers populaires et notamment celui des Mureaux.